le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Au lendemain de l'attentat djihadiste dans le métro de Londres qui a fait 29 blessés, c'est une arrestation présentée comme importante par la police. Un jeune homme de 18 ans a été arrêté ce matin dans la région de Douvres. Nous serons en direct avec notre correspondant Antoine Gignot au début de ce journal. Elle se fait la porte-parole des civils victimes de crimes de guerre au Yémen. Témoignage également dans un instant d'Amal Bacha, présidente du Forum des Sœurs Arabes pour les Droits de l'Homme. Elle était hier après-midi au Quai d'Orsay pour sensibiliser la diplomatie française. La Corée du Nord proche d'avoir l'arme nucléaire, c'est ce que déclare Kim Jong-un ce matin. Le dirigeant de Pyongyang n'entend pas les dernières condamnations de l'ONU après le tir de missile d'avant-hier au-dessus du Japon. Le récit de notre correspondant Louis Palidjano est à suivre. En France, alors que la consommation d'aliments bio explose, quel type de production faut-il valoriser dans les supermarchés? La Fédération nationale de l'agriculture biologique lance une campagne de sensibilisation. Précision à suivre d'Anne Lorchouin. Enfin, à 12h40, votre rendez-vous avec la bulle économique et Marie Viennot. À Londres, alors que la police épluchait depuis hier des quantités de bandes de vidéosurveillance, l'enquête sur l'attentat dans le métro, attentat revendiqué par l'État islamique qui a fait 29 blessés, eh bien cette enquête semble faire un pas important ce matin. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant en direct de Londres. La police a arrêté ce matin un jeune homme de 18 ans dans la région de Douvres.
Absolument, dans la zone portuaire de Douvres, près de la frontière, donc à côté des ferries qui embarquent les voyageurs vers la France. Une arrestation significative, explique le commissaire adjoint de la police. L'homme de 18 ans est pour l'instant détenu au poste de police locale. Il va être transféré dans le sud de Londres, mais l'enquête continue, car les policiers, dès hier soir, évoquaient la possibilité d'une cellule terroriste à l'origine de l'explosion qui s'est produite dans le métro. L'État islamique, sur son site de propagande, revendique d'ailleurs l'attaque à la bombe en parlant de l'action d'un détachement d'hommes, d'une équipe. Le Sun, le tabloïd le plus lu du Royaume-Uni, croit enfin savoir que tout danger n'est pas écarté. Avec cette phrase écrite à la une, en gros caractère, la police cherche la bombe numéro 2. L'hypothèse est impossible à vérifier, pas de confirmation à la brigade antiterroriste pour l'instant, mais le niveau d'alerte reste, malgré l'arrestation de ce matin, au stade critique, le plus haut sur une échelle de 5, ce qui signifie pour les services de renseignement qu'une nouvelle attaque reste considérée comme imminente.
Merci Antoine Gignot pour vos précisions. En direct de Londres. En Irak, les forces de Bagdad, soutenues par la coalition internationale, ont entamé ce matin un nouvel assaut contre l'État islamique dans l'ouest du pays. Il s'agit de reprendre la ville d'Aqacha, ville qui, une fois conquise, sera le tremplin pour lancer la bataille de Qaïm, bataille d'ampleur qui s'annonce dans le désert de l'ouest, frontalier avec la Syrie. Des stocks d'armes et d'explosifs, des camps d'entraînement et des centres de commandement djihadistes se trouveraient dans cette zone. Et puis en Syrie, les forces démocratiques syriennes, ces combattants kurdes, soutenus par Washington, disent avoir été visés ce matin par des frappes russes, six combattants blessés au nord-est de la ville de Deir ez-Zor. Le Kurdistan irakien avance vers l'organisation d'un référendum sur l'indépendance. Le Parlement régional basé à Erbil a donné son accord hier pour son organisation le 25 septembre prochain. 5 500 000 personnes concernées, référendum qui inquiète les pays voisins, Turquie et Iran notamment, qui redoutent l'effet domino sur leur propre minorité kurde. Washington réclame aussi l'abandon de ce scrutin. La Maison-Blanche estime qu'il pourrait déstabiliser la région et devenir une entrave à la lutte contre le groupe État islamique. C'est un pays qui est aussi en guerre depuis 2 ans et demi et qui traverse une très grave crise humanitaire. La population du Yémen serait même menacée de famine, selon l'ONU. Hier, la Fédération internationale des droits de l'homme a tenté d'alerter la diplomatie française. Pour la FIDH, ce conflit doit constituer, je cite, un test éthique pour le nouveau gouvernement. La France devrait ainsi choisir entre la protection des civils et la vente d'armement à l'Arabie Saoudite, l'un des principaux protagonistes de ce conflit. À l'Élysée et au Quai d'Orsay, l'ONG était venue avec Amal Bacha, la présidente du Forum des Sœurs Arabes pour les Droits de l'Homme, une femme qui alerte sur le sort tragique de la population au Yémen et dont la vie est menacée dans ce pays.
One of my friends just sent me a letter saying, okay.
Un ami vient de me prévenir que si je rentrais au Yémen, l'ordre a été donné de m'arrêter. Car je parle à Genève de ce qu'il se passe dans mon pays. Je vous donne un exemple. L'an dernier, quand j'ai demandé une enquête internationale sur les crimes commis au Yémen, car ces crimes se déroulent en toute impunité, tout le monde est vulnérable, personne n'est en sécurité. N'importe qui peut être victime de torture. Il y a des arrestations arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des exécutions sommaires et des assassinats. C'est tout cela que je suis allée dire à Genève. Le lendemain, un groupe de terroristes est allé dans la maison de mon père et dans le cimetière familial, ils ont ouvert le caveau et sorti les cadavres. Ils ont retiré les corps de ma mère, de mon frère.
Témoignage recueilli par Nadine Epstein. L'ONU a beau avoir émis de nouvelles sanctions, dénoncé la nuit dernière le tir de missiles de Pyongyang dans la nuit de jeudi à vendredi. Pas question pour la Corée du Nord d'interrompre son programme global d'armement. Ce matin, nouvelle provocation de Kim Jong-un. Le chef d'État nord-coréen se dit désormais tout proche de détenir l'arme nucléaire. Et il s'explique via son agence de presse KCNA. L'objectif est de viser l'équilibre des forces avec les États-Unis. Liu Pelijianu.
Rien ne semble pouvoir dissuader la Corée du Nord d'achever son programme nucléaire. Nous devons clairement montrer aux grandes puissances chauvines de quelle manière notre État atteindra bientôt son but de disposer d'une force nucléaire, malgré leurs sanctions et blocus sans limite, a déclaré ce matin Kim Jong-un, cité par l'agence centrale de presse nord-coréenne, lors de son inspection du lancement de missiles balistiques à portée intermédiaire qui a survolé le Japon hier. Le leader nord-coréen a souligné que l'objectif final du régime était d'établir un équilibre des forces militaires avec les États-Unis. Kim a également lancé qu'il ne faudrait jamais laisser les dirigeants américains oser évoquer l'option militaire contre la Corée du Nord. La nouvelle batterie de mesures coercitives du Conseil de sécurité de l'ONU n'a donc pas atténué l'attitude provocante de Pyongyang, qui a annoncé les rejeter catégoriquement en s'engageant à accélérer la cadence de son programme de développement nucléaire. De plus, ces menaces se font de plus en plus précises. D'après les experts, le tir de vendredi a démontré la capacité de l'armée nord-coréenne à frapper l'île de Guam, où se trouve une importante base militaire américaine, à quelques 3400 km de la Corée du Nord.
Correspondance à Séoul, signée Louis Paligiano. Manger bio, local, c'est l'idéal. Voilà le slogan de la campagne de la Fédération nationale de l'agriculture biologique, campagne lancée à partir d'aujourd'hui, alors que les états généraux de l'alimentation se poursuivent au niveau du gouvernement. Il y a quelques jours, en effet, une enquête du magazine Que Choisir dénonçait les marges exorbitantes faites par les grandes surfaces sur les fruits et légumes bio, des distributeurs qui ont compris leur intérêt à vendre ces produits de plus en plus prisés, mais qui ont gommé toute la dimension équitable de la production, notamment la notion de circuit court, Anne-Laure Chouin.
20% de croissance par an depuis quelques années pour la consommation de produits bio. En France, un chiffre d'affaires qui avoisinera les 8 milliards d'euros à la fin de l'année. Pas étonnant que les grands distributeurs aient investi le filon. En écartant pourtant une notion indispensable à la filière bio, l'équitabilité, c'est-à-dire la juste répartition de la valeur entre les producteurs, les industriels, la distribution et évidemment le consommateur. La guerre des prix bas ne peut pas avoir lieu dans le domaine du bio, sous peine de répéter des erreurs qui ont parfois été fatales à l'agriculture conventionnelle. C'est ce que pense, en tout cas, la Fédération nationale de l'agriculture biologique, qui négocie en ce sens auprès du ministère et qui tente de convertir les géants de la distribution au circuit court et au juste prix. Des discussions sont engagées, par exemple, avec le leader des surgelés, Picard. Guillaume Rioux, secrétaire national de la Fédération de l'agriculture biologique.
L'idée, si vous voulez, c'est un petit peu non pas de subir ce que désire l'industriel et la filière aval, l'industriel et le distributeur, mais bien d'acculturer ces gens-là aux contraintes de notre métier, aux contraintes de l'agriculture biologique, sur les disponibilités, sur les questions de saisonnalité, sur les questions de forme et de composition de tout ce que l'on peut produire dans nos champs.
Une acculturation facilitée par les pertes de profits et de volume des industriels liées à la réorientation des choix du consommateur qui consent plus qu'avant à payer plus cher un produit de meilleure qualité.
Explication signée Anne-Laure Chouin. La loi d'habilitation qui autorise le gouvernement à réformer par ordonnance le Code du travail a été publiée ce matin au Journal officiel. Les ordonnances, dont le contenu a été révélé le 31 août dernier, doivent encore être présentées au Conseil des ministres la semaine prochaine. Après leur signature par le chef de l'État, elles pourront donc entrer en vigueur. Si le président de région LR, Laurent Wauquiez, est élu à la tête de son parti, il a visiblement déjà trouvé sa vice-présidente, Virginie Calmels, la première adjointe du maire de Bordeaux, annonce en tout cas qu'elle deviendrait la numéro 2 des Républicains. La jupéiste avait annoncé son ralliement à Laurent Wauquiez au début du mois. La 34e édition des Journées du patrimoine bat son plein depuis ce matin. 17 000 lieux ouverts au public, 26 000 animations comme la reconstitution d'une scène de crime au palais de justice de Grenoble, des journées écrites en particulier cette année pour la jeunesse. Il est 12h40 sur France Culture, l'heure de retrouver la bulle économique consacrée cette semaine au Made in France.
La bulle économique, Marie Viennot.
Bonjour, vous faites peut-être partie de ces 75% de Français qui disent accepter de payer un produit 5 à 10% plus cher s'il est fabriqué en France. 5 à 10%, ce n'est pas forcément conforme à la différence de prix qui existe entre un produit fait ici et un produit importé, mais la multiplication des salons, assises et sites internet le prouve, il y a un engouement pour le Made in France. Favoriser le Made in France, c'est favoriser l'emploi. Aucun politique ne dit le contraire, c'est du bon sens.
Nos emplettes sont nos emplois.
Initiée par les chambres de commerce et d'industrie, cette campagne de pub remonte à 93. Elle devait sauver l'industrie française. Le patron de la CCI d'Épinal, Georges Favre, y croyait alors dur comme fer.
Comme toute sensibilisation, vous qui êtes un homme des médias, vous ne me contredirez pas. Il faut continuellement remettre sur le métier l'ouvrage pour qu'il finisse par porter et rentrer dans la tête des gens. Et je pense que ça a des chances de réussir parce que ça correspond à une réalité profonde. Et quand on correspond à une réalité profonde, vous qui êtes un homme de médias, eh ben, le message passe beaucoup mieux.
25 ans plus tard, le slogan est resté dans toutes les têtes, mais il ne s'est pas transformé en acte d'achat. Et 1 million d'emplois industriels ont disparu dans notre pays. Pour quelles raisons ? Le prix, me direz-vous. C'est une explication rationnelle. Mais quand on voit la croissance à deux chiffres des produits bio, malgré leur prix, et quand on voit les campagnes de communication pro-made in France des distributeurs qui nous promettent une vie moins chère, on se dit que le prix n'explique pas tout. Le gérant des achats d'un distributeur positionné bas prix me l'a dit ainsi. Aujourd'hui, si je veux croître sur mon marché, je suis obligé de proposer des produits français. Et c'est là que tout se complique. Car qu'est-ce qu'un produit français ? Avec la mondialisation, le composant peut venir de là, un autre de là, et le produit être assemblé ici. Un produit français, ça ne veut rien dire. Je l'ai lu et entendu pendant mon enquête. Des règles, cependant, existent, mais elles dépendent de chaque secteur. La règle de base, c'est que le marquage de l'origine n'est plus obligatoire en France depuis 1986, sauf pour les fruits et légumes, la viande, le poisson, les œufs, le miel et l'huile d'olive. Pour tous les autres produits, le marquage est à l'initiative du fabricant. S'il veut apposer la mention « fabriqué en France » sans risquer des poursuites, il devra prouver qu'une partie substantielle de la valeur ajoutée de son produit vient de France. Mais en l'absence de contraintes réglementaires, il fait ce qu'il veut côté étiquetage. Il n'a pas le droit, bien sûr, d'induire le consommateur en erreur. Mais le consommateur pressé, peut-être, n'y verra que du feu. C'est le pari que font beaucoup d'industriels ou de marques de distributeurs. Les associations de consommateurs s'en font régulièrement l'écho. Rendez-vous sur le site pour quelques exemples affligeants et conseils pratiques. Aujourd'hui, donc, un drapeau bleu-blanc-rouge ne garantit pas grand-chose. Plus de clarté ne serait pas du luxe, car les labels ont beau se multiplier, la confusion s'accroît. Mais la France ne peut imposer ses règles sur le marquage des produits faits en France. Ce serait contraire au droit communautaire, à rebrousse-poil total de la mise en place du marché intérieur européen. Il y a 10 ans, la Commission disait réfléchir à un marquage « Made in Europe », mais on n'entend plus parler de ce projet et au contraire, les demandes d'exemption se multiplient. Made in Europe, c'est donc aujourd'hui seulement le nom d'un album de Deep Purple, groupe britannique dont ce fut le dernier album. N'y voyez qu'un clin d'œil, pas une prédiction.
Merci Marie Viennot. La bulle économique est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo de votre après-midi, le temps sera orageux sur une grande moitié nord, sur le sud-ouest et sur la Corse. Alternance de nuages et d'éclaircies en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et les températures, 12 à Cherbourg, 13 à Lille, Strasbourg et Paris, 14 à Bordeaux, 16 à Lyon, 18 à Marseille et jusqu'à 19 à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec M. Le Chili. À la technique, c'était Jean Frédérix.